Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Agité du local. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 janvier, émission où nous allons parler de la situation sanitaire dans les Pays de la Loire avec une chronique du docteur de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Et puis on entendra aussi un joli projet, une chasse proposée dans toutes les médiathèques de la Mayenne d'ici la fin de l'hiver, proposée par Julie Stephen Cheng, une interview réalisée par Christophe que vous entendrez d'ici quelques minutes. Et puis on entendra aussi la chronique sport de Steven qui va nous parler bien sûr là aussi des incidences de la situation sanitaire pour aller voir et aller supporter vos équipes préférées. Ça, ce sera en fin d'émission. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité. Avec ce changement du protocole sanitaire à l'école, après son instauration il y a seulement quelques jours, il s'assouplit. Les élèves n'auront plus à recommencer le parcours des trois tests, avec un test PCR ou un test antigénique et deux autotests. Si un nouveau cas positif dans leur classe apparaît dans un délai inférieur à 7 jours, pour résumer, chaque parcours sera donc valable une semaine, même si d'autres cas positifs sont détectés ensuite. Et puis devant l'hôpital de Laval mercredi se trouvera le député François Ruffin dans le cadre de son tour dans l'ouest de la France pour rencontrer des soignants en colère. Le député de la France Insoumise viendra le mercredi 12 janvier donc à 10h devant les urgences du centre hospitalier de Laval. Urgences qui ont fermé la nuit pendant les vacances de Noël et en novembre. Il y rencontrera les membres de l'association de défense des usagers des établissements de santé ODA 53 et ceux de l'association des citoyens contre les déserts médicaux. C'est reparti pour le club de triathlon à Château-Gontier. La section loisirs reprend ce dimanche après plusieurs mois d'arrêt à cause de la Covid. La première séance aura lieu donc ce dimanche à partir de 10h au parc de loisirs de Château-Gontier. N'oubliez pas juste, si vous voulez les rejoindre, d'apporter votre propre vélo. Renseignements au 06 03 99 64 89. Et puis c'est le premier match de l'année pour le Stade Lavallois qui commence ce soir au Red Star pour la 17e journée de National. Dans le groupe a été sélectionné Johan Brun, mais pas Ryan Ferraoui ou encore François-Xavier Fumutamuto. Match qui commence à 18h30. Et puis ce week-end, foot rime aussi avec Coupe Gambardella, en l'occurrence les 32e de finale. Les jeunes du Stade Lavallois, eux, recevront le Stade Brestois. Et puis on parlait de cette situation sanitaire qui a aussi un impact sur les écoles, avec 53 classes fermées en Mayenne. Et puis autre chiffre donné par l'Agence Régionale de Santé, 72% des patients en réanimation à cause du Covid sont non vaccinés. Le variant Omicron qui fait exploser le taux d'incidence dans la région à 1614 cas positifs pour 100 000 habitants. On écoute l'analyse du docteur Pierre Blaise qui travaille à l'ARS.
Avec le variant Omicron, on a un taux de reproduction qui est certainement supérieur à 10 et tout le monde le voit aujourd'hui avec les cas contacts qui se multiplient ou les cas positifs autour de nous, parmi nos proches, montrent bien l'extrême contagiosité de ce variant. Et le problème, c'est que la contagiosité, elle fait évoluer l'épidémie de façon exponentielle, parce que même si la proportion de formes graves est faible parmi les infectés, si le nombre d'infectés est extrêmement élevé et surtout en très peu de temps, alors le nombre de personnes présentant des formes graves qui risquent d'arriver et d'affluer même en réanimation peut être extrêmement important. Et ça, c'est effectivement la grande interrogation, la grande incertitude, c'est jusqu'où et avec quelle vitesse va monter cette vague Omicron de contamination. Est-ce que ça risque de saturer un hôpital qui est déjà sous très forte pression avec un personnel aujourd'hui épuisé? Lorsqu'on est dans des évolutions exponentielles, on l'a dit, des petites variations ont des grands effets et on ne sait pas aujourd'hui dans quel sens est-ce que ça va évoluer. Est-ce qu'on sera vers un scénario rose dans lequel la vague sera sans impact sur le système de soins ou au contraire dans un scénario noir avec une saturation rapide et brutale de l'hôpital. On ne sait pas non plus d'ailleurs quel sera l'épilogue de cette nouvelle vague épidémique. Est-ce que ça va être, comme certains peuvent l'évoquer, comme c'est effectivement possible, le rangement de ce virus une fois pour toutes dans l'étagère des virus des rhumes bénins, avec les quatre autres coronavirus qui l'attendent sur l'étagère? Ou est-ce que, au contraire, on va favoriser avec une telle circulation virale l'émergence de variants avec des caractéristiques qui pourraient être encore déroutantes? Maintenant, ce qui est relativement rassurant, c'est de voir que les pays qui nous précèdent dans cette vague n'ont pas encore, je dirais, subi un impact insoutenable à ce jour sur leurs hospitalisations. Ce qui nous fragilise aujourd'hui, c'est que cette vague Omicron, elle vient se superposer à la vague Delta qui n'est pas terminée. Et puisque, on le sait maintenant, depuis récemment, c'est jusqu'à 20 à 30% des infections qui sont encore des infections Delta. Et celles-là, elles sont pourvoyeuses d'hospitalisation et également de passage en réanimation.
L'ARS qui insiste sur l'importance de cette vaccination, alors que près de 215 000 personnes de plus de 12 ans n'ont pas reçu leur première dose. On va parler de la chasse aux tanoukis, des esprits de la nature qui peuvent se transformer en pierre, en arbre ou en statue, à retrouver dans vos médiathèques en Mayenne. Ce sera juste après Deep Valley avec High Horses. Horses Deep Valley dans l'agité du local sur l'autre radio. Et je vous propose aujourd'hui de partir à la chasse aux tanoukis. Enfin, je vous propose, ou plutôt Julie Stephen Cheng, qui vous propose justement de faire dans 23 bibliothèques de la Mayenne jusqu'à la fin de l'hiver une chasse au trésor en réalité virtuelle, à la découverte donc de ces esprits de la nature très colorés qui peuvent se transformer en pierre, en arbre ou en statue par exemple. Christophe a interrogé l'artiste à l'origine de ce projet.
Bonjour Julie, bonjour Julie Stephen Cheng. Bonjour.
Merci pour votre passage sur nos ondes et pour nos lecteurs. Alors, on va parler dans un instant de votre projet qui a démarré déjà depuis le 9 décembre et qui est visible jusqu'à la fin de l'hiver en Mayenne, ou Ramado AR. Vous nous expliquerez ce que c'est. Mais avant, on va parler de vous. Où et quand êtes-vous né? Quel a été votre cursus étudiant et votre parcours professionnel?
Je suis née en France, dans le sud de la France, et je suis montée en banlieue parisienne, voilà, toute mon enfance. Et tout simplement, j'ai fait des études donc aux Arts décoratifs de Paris. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une école d'art à Paris, où moi, je suis allée en images imprimées, donc j'ai étudié vraiment toutes les étapes de fabrication d'un livre. C'était vraiment très concentré sur le livre. Et je me suis spécialisée dans tout ce qui était un peu numérique et papier. Voilà, donc j'ai un peu cherché là-dedans pendant des années et je me suis petit à petit détachée pour carrément faire des expositions où je raconte des histoires en utilisant à la fois le numérique et le papier. Voilà, donc ça fait 10 ans que j'ai quitté l'école et je me suis un peu concentrée là-dessus, disons.
Et cette école de Paris, c'est donc l'école des arts décoratifs. Alors vous êtes, je cite, hein, une exploratrice. Vous travaillez, vous l'avez rappelé aujourd'hui, autour du papier, du livre et des technologies modernes pour découvrir des formes alternatives de narration. Quand avez-vous pressenti qu'avec les nouvelles technologies, le livre au simple format papier était en danger?
Ça a commencé... Bon, en fait... En gros, c'était en 2011, si je me souviens bien. Donc, effectivement, moi, je suis une énorme fan du livre. J'ai passé toute ma vie toute mon enfance dans les médiathèques quand j'étais petite, dans le 92. Et en même temps, c'était vraiment à ce moment clé, en fait, de mes études où il y avait les premiers iPads. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un peu les premières applications. Il y avait ces applications où il fallait tourner une page. Ça reprenait un peu de façon nostalgique la page qui se tournait. Et on se disait, est-ce qu'on peut raconter maintenant des histoires avec l'animation, avec l'interactivité? Donc, c'est assez nouveau. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis intéressée à parler d'applications, il y a quoi d'autre? Et je suis allée dans l'électronique, dans les livres-jeux, dans les livres d'artistes. En fait, il y avait beaucoup de choses qui se sont faites. Et ça a un peu ouvert une boîte de Pandore. Et depuis, j'ai pas arrêté, en fait. donc, voilà.
Et je rappelle que vous avez commis un mémoire intitulé « Interactivité mouvement du livre papier au numérique » et ça vous a notamment permis de percevoir que le livre était en perpétuelle évolution et qu'il avait toujours de merveilleuses choses à offrir. Ça, vous allez nous le détailler dans un instant, Julie Stephen-Cheng. Alors, vous déclarez beaucoup aimer écrire des histoires. Écrire des histoires, ça n'est pas donné à tout le monde, en tout cas bien les écrire. Ça a été quoi le déclencheur de cette envie d'écrire? Est-ce que c'est la vie quotidienne qui vous semblait trop banal?
C'est vrai que moi j'illustre, en fait je suis illustratrice aussi, mais à la base c'est vrai que mon expression première c'était plus l'écriture, donc avant d'aller en école d'art je me destinais plus à une prépa littéraire, je suis plus à l'aise entre eux avec les mots, on sait aussi que être auteur c'est très complexe, hein, en vivre, etc. Donc je voulais être graphiste, c'était vraiment très pratique, hein. Je voulais pouvoir faire du graphisme, c'était plus accessible pour moi. Et je dirais que j'ai jamais arrêté. Après, c'était l'enjeu, en fait, c'était comment raconter une histoire de façon interactive, puisque là, en fait, on raconte pas une histoire de façon linéaire. On va vraiment, en fait, raconter une histoire en jouant avec l'environnement, en jouant avec aussi les choix du spectateur. Donc, c'est presque une narration combinatoire, si je puis dire. Et c'est plus ça, en fait. J'ai trouvé une sorte de façon de raconter qui est pas aussi cadrée que ce qu'on a l'habitude de faire, ou ce que j'avais l'habitude de faire. Et c'est bien plus ludique, en fait, je trouve.
Et à défaut, alors, d'avoir parcouru le monde, Julie Stephen-Cheng, vous avez visité beaucoup de pays. C'est d'ailleurs à cette occasion que vous avez déployé Ramado AR dans différents endroits. Chaque culture, pays, homme ou femme est différent. Comment vous vous adaptez à cette différence? Comment vous parvenez à l'intégrer dans votre travail?
Alors, c'est vrai que oui, mon année 2019, elle était, je crois que j'ai dû faire une dizaine de pays en une année, un truc comme ça. Enfin, voilà, ma vie a complètement changé, c'est vrai, depuis le confinement. Ce qui était intéressant, en fait, c'était de construire ce projet, en confrontation avec ces cultures. Il faut savoir que Ramado, en fait, à la base, bien sûr qu'il repose sur une base de mythologie asiatique, c'est-à-dire que c'est les tanuki, en fait, sont des personnages mythologiques, disons, de la tradition japonaise, mais aussi de Chine, de Corée. Et en fait, moi, je me suis beaucoup inspirée aussi de l'animisme, du chamanisme, qui sont propres à toutes les cultures, en fait, qui sont très présentes dans les cultures africaines, dans les cultures d'Amérique latine. Et en fait, je pense que finalement, l'idée d'esprit de la nature, elle est très commune. Donc, d'une certaine façon, pour moi, c'est assez simple d'en parler. Par exemple, j'avais fait une expo au Ramado. Il y a quelqu'un qui est allé voir un chaman et qui m'avait dit que c'était l'esprit du chien. Et dans mon application, elle était aussi l'esprit du chien. Bon, c'est vraiment là une anecdote dont je me rappelle parce que c'est tellement sorti du néant que c'était très drôle. Mais c'est surtout qu'elle me racontait vraiment qu'elle était allée voir un chaman au fin fond du Mexique ou je sais plus. Enfin, c'était assez comique. Enfin bref, donc du coup, effectivement, j'ai pris vraiment une histoire très universelle, disons une base très universelle pour pouvoir parler voilà, un peu à tout le monde, à la fois aux enfants, aux adultes, aux personnes qui viennent de très loin, comme des personnes qui sont voilà, françaises de souche. Voilà, moi c'était mon but, en tout cas, faire un projet qui soit très très accessible et surtout qui nous reconnecte avec la nature et notre environnement.
Et la Mayenne, vu son attractivité, va certainement attirer de nombreuses personnes, y compris de très loin, Julie Stephenscheng. Alors vous nous présentez Ouramado, le réveil des Tanuki, depuis le 9 décembre et pendant tout l'hiver, à découvrir ce parcours en réalité augmentée. C'est sous forme de jeu de piste en accès libre. Il y a 18 parcours dans 23 bibliothèques du département. Concrètement, ça va se passer comment? Enfin, on vient, pas les mains dans les poches, mais on vient avec un matériel particulier, une initiation particulière?
Pour les enfants ou pour les adultes, enfin, l'idée c'est peut-être soit pour les adultes, voilà, j'imagine que les adultes ont tous des smartphones, enfin, aujourd'hui c'est assez rare quand même de ne pas en avoir un. Il suffit de télécharger une application qui est gratuite, donc qui est disponible sur iOS ou sur Android, et de tout simplement scanner en fait les tanuki, donc ces animaux qu'on va trouver dans les médiathèques. Et une fois qu'on les rencontre, on va les animer, ils vont vous poser une question, enfin ils vont raconter une histoire et vous poser une question, et il faut répondre au fur et à mesure jusqu'à découvrir en fait que vous êtes un tanuki oublié et quel animal totem vous êtes. Enfin voilà, donc c'est un petit peu le... Voilà, j'ai un peu révélé la fin de l'histoire, mais voilà, c'est ça le but de l'expérience. Donc tout simplement, voilà, les mains dans les poches, oui, enfin avec un téléphone ou une tablette, c'est mieux, et découvrir voilà ces personnages qui sont un peu cachés pour certaines médiathèques ou plus mis... au devant de tout pour d'autres médiathèques, je pense.
Et alors ces tanuki, vous l'avez rappelé, Julie Stephenscheng, ce sont des animaux extraordinaires qui utilisent des pouvoirs de métamorphose pour se transformer en pierre, en arbre, en statue, voire en objet du quotidien pour faire des farces. Ces animaux ont appris à adopter une forme et des pratiques humaines. Pourquoi ne pas vous être calqué sur l'humain? Vous avez moins confiance en lui qu'en l'animal?
Je pense que pour nous, les humains, c'est peut-être plus facile de se visualiser à travers des animaux. Je trouve que c'est beaucoup plus accessible. Après, dans mon histoire, c'est justement nous, on est un humain, bien sûr, qui faisons l'expérience. En fait, on découvre à travers le parcours qu'on est en fait un tanuki oublié. Donc, c'est-à-dire qu'on est un animal à la base et qu'on s'est transformé en humain et qu'on a juste oublié d'où on venait. Donc, j'avais pas besoin en fait de représenter des humains, parce qu'en fait, s'il y a un personnage qui n'est pas manqué dans le projet, c'est le personnage du spectateur. Et il est humain, voilà, tout simplement.
Vos créations, Julie Stephenscheng, elles font l'objet d'expositions personnelles, mais aussi d'expositions collectives. Je pense à Machine à lire, c'était en 2017. Quel genre d'artiste êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt à créer en toute indépendance pour aller ensuite proposer aux autres, ou au contraire partir du collectif pour nourrir votre propre travail?
Très bonne question. Alors, je dirais que les deux se répondent, dans le sens où quand je fais un projet comme Ouramado, ça part vraiment d'un travail d'équipe. Donc, ça fait partie voilà, d'une mouvance de réflexion avec un développeur, un animateur, un game designer. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc là, c'est vraiment le fruit en fait de ces collaborations. Après, il y a quand même voilà une grande partie qui est très solitaire, hein, je dirais, c'est-à-dire de prototyper, de faire émerger l'univers. Donc, je dirais un peu les deux. C'est-à-dire que si je faisais qu'un livre vraiment basique, je pourrais le faire toute seule. Mais en faisant un projet interactif, là, je suis obligée de me mêler dans un courant. Et encore une fois, Ouramado, je pense que c'est aussi le fruit d'un courant qui est plus global, qui est beaucoup de gens commencent à faire des projets qui sont un petit peu transversaux, disons, entre le livre, le cinéma, le jeu vidéo. C'est un peu une mouvance d'aujourd'hui.
Et vous aviez déclaré lors d'une interview accordée à l'Institut français qu'il y a une partie de votre travail qui vous intéresse tout particulièrement, c'est de rendre le spectateur actif. Est-ce que vous estimez que le public est aujourd'hui trop consommateur passif, que ça soit l'élève de 8 ans ou l'artisan local?
Disons que, alors ça c'est vraiment quelque chose que j'aime étudier, j'aime explorer. Ça c'est vraiment dans la lignée du travail de Katsumi Komagata, qui est un designer japonais que j'adore et qui fait des livres pour enfants. Pour moi, il y a plusieurs façons de raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr l'illustration, le texte, etc., enfin l'image. Mais pour moi, il y a aussi une narration gestuelle. Disons que quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, on peut en fait intégrer cet usage dans une forme de narration. Et je trouve que ça engage beaucoup plus le spectateur, le lecteur. Et je trouve ça beaucoup plus beau, en fait, de créer une interaction que de raconter une histoire à travers ses gestes, à travers ses choix. Je trouve que c'est plus engageant.
Ouramadou, le réveil des Tanuki proposé par Julie Stephenshank, c'est jusqu'à la fin de l'hiver dans les bibliothèques mayonnaises. Alors, vivre les cultures, c'est l'un des sous-titres de l'Institut français que j'évoquais à l'instant. Estimez-vous aujourd'hui que nous avons les moyens, en France et ailleurs, de vivre pleinement nos cultures, nos différences ?
Oui, complètement. Enfin, je pense que la France, c'est un très bel exemple de ça. Et puis, les médiathèques, d'ailleurs, sont des magnifiques lieux de culture. Enfin, moi, j'ai rarement vu des gens venir de très loin, des cultures qui se mixent totalement. Et c'est vraiment un lieu qui est très ouvert et qui est très accueillant. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans la médiathèque et je pense que j'avais vraiment accès à des livres qui venaient partout. Et aussi, il y a des médiathécaires qui avaient des cultures différentes aussi. Donc, moi, je dis médiathécaire parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les médiathèques, mais effectivement, il faut beaucoup de choses hommes. Donc je dirais, bien sûr, évidemment.
La Mayenne, vous connaissiez avant ce projet ?
Alors, je connaissais très peu, non, malheureusement. Mais j'ai appris à découvrir, du coup.
Ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
C'est génial. Du coup, moi, j'ai fait une virée avec Valérie, donc Ganry, qui a vraiment organisé tout le projet, enfin, qui a vraiment mené ce projet de front. Et en fait, on a parcouru la Mayenne pour faire des ateliers dans les médiathèques. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Les gens sont très sympas. Que dire de plus ? J'ai hâte d'y retourner.
Et le contenu de ces ateliers, donc c'était au rendez-vous du grand public ou une population ciblée, les jeunes ?
Non, c'était vraiment grand public. En fait, nous, on a vraiment travaillé aussi le côté relation entre parents-enfants, grands-parents-enfants. C'est des ateliers qui sont accessibles vraiment à tout le monde. C'est-à-dire qu'à la fois, les adultes, ils connaissent pas la réalité augmentée, ils connaissent pas la techno, ça les intéresse vachement. Et les enfants, il y a ce côté un peu fabriqué à la main qui les intéresse aussi beaucoup. Donc, ça permet vraiment de mixer un peu les générations. Et c'est très ludique, en fait. C'est un atelier où on fait des paper-toys, on fait des masques, on fait des dessins en réalité augmentée. Il y a ce côté un peu techno, mais il y a ce côté très artisanal qui est lié au dessin, à la fabrique, qui marche très bien.
Julie Stephenshank, je rappelle que vous proposez Ouramadou, le réveil des Tanuki, dans toutes les bibliothèques du département, en tout cas 23 bibliothèques, 18 parcours différents à apprécier jusqu'à la fin de l'hiver. Merci beaucoup pour votre disponibilité.
Merci à vous.
Et merci Christophe pour cette interview que vous pourrez réécouter sur l'autreradio.fr. On écoute Jane avec City juste avant de retrouver notre chronique sport. C'était Jane avec City dans la JT du local. On passe évidemment à notre chronique sport. Chronique sport là aussi marquée par la situation sanitaire avec le variant Omicron qui alimente la hausse des contaminations au Covid. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé il y a quelques jours de nouvelles mesures sanitaires et notamment l'instauration de jauges pour les grands événements. Un nouveau coup dur pour le secteur du sport, Steven.
En effet, Marie, l'ascenseur émotionnel est reparti vers le bas pour les dirigeants des sports professionnels. Le gouvernement a annoncé le retour pour 3 semaines des jauges à 2000 personnes pour les événements organisés en intérieur et à 5000 pour ceux qui ont lieu en extérieur. Les équipes qui reçoivent pourraient perdre les 3/4 des recettes attendues. Un nouveau coup dur qui n'épargnera pas le monde du rugby, du foot et du basketball pour des clubs éprouvés par la saison précédente joués en grande partie à huis clos. En 2020, le gouvernement avait accordé 107 millions d'aides pour compenser les pertes de la billetterie et 100 millions en 2021. Assurant que les clubs s'adapteront mais soulignant que le plus difficile sera l'impact économique alors que les clubs sont déjà en difficulté. De plus, pour éviter la propagation du virus, la consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans les équipements sportifs. Les buvettes sont donc fermées jusqu'à nouvel ordre. Depuis une dizaine de jours, il n'était plus possible de se restaurer debout dans les enceintes proposant des hospitalités, un moyen en moins de récupérer des éventuelles recettes pour les structures sportives. Les nouvelles restrictions inquiètent les grands dirigeants comme Tony Parker, président de l'ASVEL, qui ne voit pas la possibilité de tenir plus d'un mois à huis clos.
Donc si je comprends bien, il va falloir se réhabituer à des tribunes assez clairsemées pendant au moins quelques semaines, Steven.
Et oui, en Mayenne, le district de foot et les instances repoussent la reprise des compétitions amateurs. Les équipes amateurs des Pays de Loire ne reprendront pas les compétitions ce week-end. Les rencontres prévues entre le 6 et 16 janvier auront lieu à une date ultérieure. Une nouvelle réunion entre les instances sera tenue le 17 janvier pour faire à nouveau le point sur la situation.
Merci beaucoup Steven, on va suivre ça évidemment de très près pour voir un petit peu comment vont évoluer les compétitions en Mayenne et ailleurs évidemment. Je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'au bout évidemment. Salut Steven, on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sportive. Merci, je le disais, de nous avoir suivis jusqu'ici, puisque c'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce vendredi. À 20h, il y aura Passe-moi le thème, une émission spéciale qui ira jusqu'à minuit, consacrée aux têtes couronnées, et oui, en cette semaine d'épiphanie. Et puis, autre émission à venir ce week-end, samedi à 13h, Rock Dreams, et à 17h, Bud Station. Évidemment, aussi dimanche à 19h, on lit quoi nous, évidemment, à retrouver. Nous, on se retrouve évidemment après ce week-end, lundi, week-end que je vous souhaite très beau, évidemment, et je vous souhaite également une très bonne journée.